Voilà, c'est une joie d'être avec vous ce matin. On n'est pas très très loin, on a 40 minutes de route. Voilà, je dois me présenter en quelques mots, c'est ça? Je vais pas être trop long. Erwan Pelletier, 30 ans, deux enfants, mon épouse Rebecca. On n'est que depuis 2 ans sur Marignane, mais c'était prévu ainsi pour mon deuxième stage. Donc j'ai été reconnu en mars à Montluçon. Avant, nous étions sur Angoulême, en Charente. Je ne sais pas s'il y en a qui savent où c'est. Et puis, de base, je suis de Bretagne. Donc voilà, je suis descendu pour vous voir. Donc voilà, simplement en quelques mots sur Marignane. Et puis, on part le 25. Donc voilà, on pensera à vous. C'est une belle église, l'église d'Istres. Et je tenais à le dire aussi ce matin, vous avez un bon pasteur. Vous avez c'est vrai, on ne le dit pas assez, mais. Bénissez le Seigneur pour le couple pastoral que vous avez. Je le connais un petit peu, Joël, mais vraiment, c'est un bon serviteur, c'est quelqu'un de confiance et je bénis le Seigneur de m'avoir invité ce matin. Merci, Joël. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible. Juste avant, j'avais une petite introduction. Voilà. En 1912, à la suite d'une collision avec un iceberg, le Titanic, vous avez déjà entendu parler du Titanic, fait naufrage dans l'océan Atlantique, causant la mort de plus de 1500 personnes. En 1917, le Mont-Blanc, cargo français transportant des munitions vers l'Europe, entre en collision avec un navire norvégien. L'explosion qui a eu lieu ce jour-là pouvait s'entendre à plus de 400 km et il y a eu plus de 2000 morts ce jour-là. Un peu plus près de nous, 13 janvier 2012, le Costa Concordia, paquebot de croisière, heurte des rochers alors que le paquebot naviguait trop près de la côte, 32 morts et une perte d'1 milliard d'euros, soit deux fois le prix de construction du bateau. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu de prendre le bateau là, cet été. C'est pas très rassurant, hein. Ce matin, on va s'arrêter sur un naufrage qui nous est présenté dans la parole de Dieu. Par contre, ce naufrage, c'est qu'il a fait zéro victime. Le bateau, lui, par contre, il a explosé, mais ce naufrage, il est, je crois, pour chacune de nos vies, il y a des enseignements à en tirer. La parole de Dieu nous a donné ce passage parce qu'il y a des choses pour chacun d'entre nous. Et ce matin, je crois aussi que pour vous, pour l'Église, pour moi-même aussi, le Seigneur veut nous parler. Alors, je vous invite à lire avec moi dans le livre des Actes au chapitre 27. À partir du verset 9, acte 27, verset 9. On va se plonger un petit peu dans l'histoire. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. » Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce périple et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île. » Amen. On va s'arrêter là pour la lecture pour le moment. Paul ici est dans son quatrième voyage, mais à la différence des autres voyages, ce n'est pas un voyage missionnaire qu'il fait. Il est prisonnier, il vient de faire appel à César, alors il est conduit sur ce bateau pour aller en direction de l'Italie, pour défendre sa cause devant l'empereur. Et puis à la lecture de ce passage, on remarque très vite que le voyage ne va pas se faire dans de bonnes conditions. Ça commence très mal. La Bible nous dit que notamment, quand ils ont longé la côte de Chypre, les vents étaient devenus contraires. La navigation était même devenue dangereuse. Et pour couronner le tout, on l'a lu ensemble, une tempête va se déchaîner et causer énormément de soucis à l'équipage. Le navire était devenu incontrôlable, au point qu'il est, il est marqué, au point que tout homme perdit espoir de s'en sortir. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la scène sur le bateau, un bateau qui part à la dérive, on jette par-dessus bord ce qu'on peut jeter, on ne peut rien faire. Le bateau est là et il commence à faire naufrage. Ça devait être terrible, l'ambiance ne devait pas être bonne. Mes frères et sœurs, souvent dans nos vies, les difficultés, les tempêtes arrivent sans prévenir. Nos vies sont parfois, il faut le dire, secouées par les vagues. On est secoué de tous côtés. Et dans la plupart des cas, les tempêtes échappent à notre contrôle. Elles peuvent provoquer en nous des sentiments, comme ces hommes l'ont vécu, des sentiments de panique, de peur, de découragement aussi. Malgré tout, il faut se rappeler que Dieu se sert de toutes ces choses pour nous enseigner. N'oublions jamais que Dieu nous dit dans sa parole qu'il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Toutes choses, les tempêtes aussi. Le premier point de ce message ce matin est le suivant, Dieu est au contrôle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être avec quelqu'un un jour, et puis avec un proche, et il vous dit ceci, il vous dit, ne t'inquiète pas, je gère. Sauf que la personne, on s'aperçoit qu'elle ne gère pas du tout, et finalement ce qu'on avait imaginé de pire est en train de se réaliser. T'inquiète pas, je gère. Combien de fois la personne n'a pas géré ? L'histoire nous montre que les hommes ici, malgré leur connaissance de la mer, malgré le fait qu'ils étaient des marins aguerris, ils connaissaient les vents, ils connaissaient le bateau, ils savaient comment il fallait gérer ces choses-là en général, ici, ils n'ont rien pu faire, ils n'ont rien pu contrôler. Quelles que soient les circonstances, Dieu, lui, au contraire, est celui qui contrôle toutes choses. Et même si parfois on a l'impression que Dieu n'est pas là, que Dieu est distant, que nous, on a l'impression que voilà, on ne contrôle rien du tout, le Seigneur, lui, est celui qui contrôle toutes choses. Toutes choses. D'ailleurs, la Bible nous dit, au niveau du déluge qui a eu lieu sur la terre, dans le psaume 29, que l'Éternel était sur son trône. Lors du déluge, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Dieu est celui qui maîtrise absolument tout. Les éléments, qu'ils soient naturels, surnaturels, parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Est-ce que vous, je fais une parenthèse, est-ce que vous, avec un peu de recul, est-ce que vous croyez que Dieu a maîtrisé les temps qu'on a vécu dernièrement par rapport au Covid ? Nous, les humains, souvent, on était comme ces hommes, on était perdus, sans contrôle. On était obligé de subir. Mais Dieu, lui, il était toujours sur son trône. Hein. Il savait que ça allait arriver et il connaît toutes choses. Dieu est le créateur de toutes choses parce que finalement, il est Dieu. Il est Dieu. Qu'est-ce qu'une tempête pour lui ? Et c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, je l'ai noté aussi, rappelons-nous du récit dans le Nouveau Testament où Jésus, avec un seul mot, par un seul mot, a calmé la tempête. Oui, Dieu est avec nous quand tout va bien. Mais aussi quand tout va mal. Et ici, c'est le cas, tout va mal. Grosse tempête, manque cruel de nourriture, des hommes paniqués, découragés, un bateau qui part à la dérive, le noir complet, on l'a lu ensemble, le noir complet pendant des jours et des nuits. Imaginez la scène, on ne voit rien, on est ballotté de tous côtés. Mais un homme va sortir du lot. C'est l'apôtre Paul. Oh, comment je bénis le Seigneur pour l'apôtre Paul. Quelle vie il a eue. Quel enseignement pour chacun d'entre nous. Et ce matin, on va s'arrêter sur cet homme, sur ses réactions, sur ce qu'il a fait, parce que le Seigneur nous parle au travers de ce passage. Verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril, sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Paul n'est pas un expert de la navigation. Paul n'est pas marin. Ce n'est pas son métier d'être sur des bateaux, contrairement ici au capitaine du navire. Par contre, Paul, il a quelque chose de plus. Il connaît Dieu. Il connaît son Dieu. Et ici, peut-être qu'on ne le voit pas à la première lecture, mais Paul a reçu de la part de Dieu une révélation. Il va se passer quelque chose. La navigation ne va pas se faire sans péril. C'est marqué « je vois ». Je vois. Comment il le sait ? Parce que Dieu a mis sur son cœur cet avertissement. Et Paul va donner cet avertissement aux hommes. Il va dire « mais je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Faites attention ». Vous savez, parfois, on peut recevoir aussi des choses de la part de Dieu que les hommes et les femmes de ce monde ne reçoivent pas. Parce que nous connaissons le Seigneur. Mais pour recevoir des choses de la part de Dieu, nous devons être en communion avec le Seigneur. Si je suis près de Dieu, si je suis intime avec Dieu, le Seigneur va me communiquer des choses, et des choses parfois précises. Dieu communique par l'Esprit des choses pour ceux qui, la Bible nous dit, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui sont attachés à sa parole. Et ici, Paul, il reçoit de Dieu cette parole. On peut recevoir des qualifications dans la vie, on peut être compétent dans plein de domaines, et merci Seigneur si c'est le cas. Mais j'aimerais vous dire que rien ne peut remplacer les choses spirituelles, les choses qui viennent de Dieu directement. Dans une église, par exemple, un conseil d'administration composé de personnes qualifiées, capables, c'est bien. Mais un conseil de personnes remplies de l'Esprit, dépendantes de Dieu, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des situations, des cas où il faut vraiment avoir la parole de Dieu. Il faut vraiment avoir la direction du Seigneur. Le pilote avait de l'expérience, mais il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas de communion avec Dieu et le centenier va préférer écouter le pilote. Terrible, hein ? Paul donne un avertissement, mais il va se prendre un vent. On ne va pas l'écouter. Vous savez, aujourd'hui, on préfère souvent écouter le conseil des hommes plutôt que le conseil de Dieu. Je ne sais pas vous, mais parfois quand on a des choix à faire, on essaie d'aller voir des personnes de confiance, des personnes expérimentées, on leur demande le conseil. C'est bien, c'est important de demander le conseil à ceux qui nous entourent, mais finalement, le meilleur conseil qu'on puisse avoir, c'est celui qui vient de Dieu directement, celui qui vient du Seigneur. Parfois, on préfère écouter notre expérience, suivre notre expérience, nos ressentis, notre cœur. Ah, j'ai ça sur le cœur. Mais qu'est-ce que pense Dieu ? Que dit Dieu ? Au verset 12, il est également écrit que la majorité a estimé que c'était le moment de partir. La majorité. Vous savez, la majorité n'a pas toujours raison. Dieu, lui, par contre, il a toujours raison. Et il sait ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Il nous aide à faire les bons choix. Paul a prévenu ici que le voyage allait laisser des traces, mais le pilote ne l'a pas écouté, et malgré lui, Paul se retrouve dans la tempête. Vous savez, je me permets de vous le dire, il y a des tempêtes que nous-mêmes nous avons créées. Il faut être honnête, on ne fait pas toujours les bons choix. Et parfois, on a des tempêtes qu'on subit, mais c'est parce que nous avons fait de mauvais choix. Mais aussi, j'aimerais vous dire qu'il y a des tempêtes dans la vie où elles arrivent à cause des autres. Un mauvais choix qui a été fait par quelqu'un. Et nous, finalement, on n'y est pour rien, mais on est pris dans cette tempête. Ici, c'est le cas de l'apôtre Paul. Paul n'y est pour rien. Malgré tout, malgré les éléments contraires, malgré la tempête, malgré cette situation difficile qu'il est en train de subir, il sait que Dieu reste souverain. Et si notre vie est entre ses mains, si notre vie appartient au Seigneur, j'aimerais vous dire que nous n'avons pas à nous inquiéter. Même si on est en pleine tempête, même si le navire de notre vie est en train de dériver complètement, si je suis entre les mains de Dieu, je n'ai pas à avoir peur, parce que je sais que Dieu conduit ma vie. Et nous devons comprendre que Dieu a permis, j'insiste sur ce mot, Dieu a permis que Paul et toutes les personnes présentes sur le bateau passent par cette tempête. Dieu a permis. C'est le prophète Jérémie qui peut dire ceci aussi dans la parole de Dieu, Lamentations 3, 37. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Je ne sais pas si dans nos églises on parle assez de la souveraineté de Dieu, du fait que Dieu est souverain, que Dieu contrôle toutes choses et que Dieu permet aussi des choses dans notre vie. Seigneur, pourquoi tu permets que je passe par là? Pourquoi tu permets que je passe par la maladie? Pourquoi tu permets que je passe par la perte d'un emploi? Parce que le Seigneur le sait. Le Seigneur sait toutes choses. Et dans chaque temps que Dieu permet, dans chaque temps que Dieu nous fait passer, Dieu veut faire grandir quelque chose en nous. Et parfois aussi, Dieu veut faire mourir quelque chose en nous. Il y a, dans chaque temps que Dieu permet, quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Et si je comprends cela ce matin, si je le saisis sur mon cœur, alors je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je fais confiance à Dieu, je m'appuie sur Dieu et en retour, Dieu me donne sa paix, sa confiance, son repos. Et ça, c'est quelque chose de surnaturel. Parce que aller dire à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu as pris une maladie grave, mais non. Par contre, quand on connaît Dieu, quand on connaît le Seigneur, on a cette paix, on a cette joie, on a ce repos, même si on est dans la tempête. Amen. Mais on peut aussi le communiquer à ceux qui sont autour de nous. On va le voir ensemble. Deuxième chose que nous apprenons dans ce passage, que le Seigneur veut nous montrer aussi, c'est au verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Ce point, je l'ai intitulé Faisons attention aux signes. Alors encore une fois, l'équipage va se tromper. Il pense que c'est bon, c'est le bon moment, on va lever l'ancre. Pourquoi ? Parce que c'est marqué, un léger vent du sud vient à souffler. Une petite brise, c'est bon, on va se laisser guider, le voyage va bien se passer. Pour eux, c'était le signe qu'il fallait partir. Vous savez, il y a des personnes parfois dans nos églises qui voient des signes partout. Pas vous ici sur Istres, mais ailleurs, ne vous inquiétez pas. Ça me fait penser à quelqu'un que je connais qui, à un moment donné, avait des sentiments pour une fille. Et puis, il a dit au Seigneur, voilà, si c'est la bonne fille, si c'est avec elle que je dois me marier, fais qu'il y ait un papillon qui arrive lorsqu'on va se rencontrer la prochaine fois. Et vous savez quoi ? La personne, elle est arrivée, elle avait un petit papillon sur son t-shirt. Et lui s'est dit, ça y est, c'est le Seigneur qui a répondu. Ils se sont fiancés. Malheureusement, après, ils ont vu que ce n'était pas la volonté de Dieu, ils se sont séparés. Alors, je dis cet exemple, peut-être ça peut nous faire rire, mais parfois, on se base sur un signe, ou même sur plusieurs signes. Les hommes du navire ici se disent que c'est le bon moment. Ça y est, ils voyaient leur projet réalisé, c'est marqué, hein, se croyant maîtres de leur dessein. Mais peu de temps après, la Bible nous dit qu'un vent violent se mit à souffler, peu de temps après. Nous, les chrétiens, on voit des signes là où il n'y en a pas, parfois. Dieu ne nous demande pas de nous fier aux signes pour avancer, Dieu nous demande de nous fier à lui, premièrement. C'est-à-dire à le consulter, à le prier et à lui faire confiance. Après, le Seigneur, il est celui qui met toutes choses en place. Il met dans notre cœur, déjà, premièrement, sa paix, qui surpasse toute intelligence. Si je prends une direction, je fais un choix et que je n'ai pas la paix de Dieu, c'est pas un bon signe, permettez-moi cette expression. C'est pas bon. Dieu est celui qui met sa paix. Dieu est celui aussi qui saura conduire les temps, les circonstances. On n'a pas besoin de forcer la porte. Le Seigneur est celui qui ouvrera la porte au bon moment. Mais avant de prendre une décision, c'est important de prier Dieu. Et c'était le cas de Paul. Alors, ce n'est pas marqué dans le texte que Paul pria, que Paul se mit à genoux, que Paul était en communion avec Dieu, mais on le devine facilement. Surtout que l'apôtre Paul est celui qui nous a dit « priez sans cesse ». Et j'imagine là, quand, quand la tempête a commencé à surgir, j'imagine que Paul était en prière. Il disait, Seigneur, tu connais toutes choses. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à faire le bon choix. Aide-moi à avoir la bonne réaction. Et c'est ainsi que Dieu a pu accorder à Paul une part de sagesse. Quand on lit l'ensemble du passage ici, on s'aperçoit que Paul était clairement un homme sage, réfléchi. Et on peut être sage, réfléchi, on peut être calme, même dans la tempête. La Bible nous dit d'être sage, sage dans nos décisions. Combien de personnes souffrent parce qu'elles ont fait des choix dans la précipitation? Ils ont fait des choix sans la sagesse de Dieu, sans consulter la parole de Dieu. En tant que chrétien, on est appelé à prier et aussi à réfléchir. Vous savez, le Seigneur nous a donné un cerveau. Et oui, ce n'est pas pour le mettre de côté, c'est pour aussi l'utiliser. La Bible nous dit, dans Luc 14, 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Paul, ce n'est pas un homme qui s'arrête au signe. Je vais encore vous faire sourire peut-être, mais un jour, il y a un jeune célibataire qui a dit à Dieu, la première personne qui me fait un sourire dans l'église, quand je rentre dans l'église demain, c'est avec elle que je me marie. La personne est rentrée dans l'église et il y a une personne qui lui a souri effectivement, c'était une grand-mère. Attention aux signes, attention aux ressentis, attention à nos émotions aussi. Vous savez que nos émotions sont aussi entachées en quelque sorte par le péché. Au contraire, le Seigneur nous demande de marcher par la foi. Et pas n'importe comment, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Toujours sur la parole de Dieu. Si vous êtes malade, que vous avez peut-être reçu de Dieu la promesse qu'il va vous guérir, accrochez-vous à cela. Même si les résultats ne sont pas bons, même si de vos yeux vous ne voyez pas d'amélioration, même si l'avis des médecins sont unanimes, même si les vents sont contraires, si vous avez reçu une parole de Dieu, j'insiste, si vous avez reçu une parole de Dieu, gardez la foi. Persévérez, le Seigneur va accomplir sa parole. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il dit, il l'accomplit. Et c'est valable pour chacune de nos vies. On a peut-être reçu des paroles de Dieu pour un proche, pour une situation. Les vents sont contraires, mais ce n'est pas grave. On s'accroche à ce que Dieu nous a dit. Amen. Versets 21 à 26, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. » Troisièmement, ce matin, Paul, un exemple pour chacun d'entre nous, encourage l'équipage. Il l'encourage. Je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, si Paul avait réagi peut-être comme souvent comme on le fait, mais il serait parti boudé. Il serait parti, je ne sais pas moi, derrière le bateau. Il serait assis. Et puis, il serait là en train de peut-être de râler, puis en train d'attendre que le bateau se crache, et puis de dire, bah voilà, je vous avais dit, il fallait m'écouter. Non. Mais il n'est pas comme ça, Paul. Paul, il a gardé son cœur. Il est resté près de Dieu. Et quand il était en communion avec Dieu, même au sein de la tempête, Paul va recevoir de la part de Dieu des paroles d'encouragement pour les autres. Il ne faut pas attendre d'être toujours bien pour encourager les autres, mes frères et sœurs. La Bible nous dit qu'il faut s'encourager mutuellement les uns les autres. Imaginez si on attendait que tout aille bien dans nos vies pour encourager, y aurait très peu d'encouragement parmi nous. Paul avait des paroles d'encouragement pour ceux qui sont découragés sur le bateau ici, pour ceux qui sont effrayés. Et les hommes du bateau, qui étaient présents sur le bateau, pensaient tous mourir. Parfois, dans, dans les films, dans les dessins animés, vous savez, quand y a un danger qui arrive, on voit les gens paniquer complètement, on va tous mourir, c'est fini, c'est terminé. Mais quand on a Dieu dans notre vie, les choses, elles sont tellement différentes, tellement. Si vous restez en communion avec Dieu au sein même de votre épreuve, ce sont des paroles positives, des paroles édifiantes, des paroles d'encouragement qui vont sortir de votre bouche. Pourquoi ? Parce que vous êtes en communion avec Dieu. Et quel témoignage nous pouvons rendre parmi ceux qui nous entourent lorsqu'on a des paroles d'encouragement ? Moi, les visites qui m'ont le plus marqué jusqu'à présent, ce sont les visites où on se dit, bon ben, on va aller visiter un frère, une sœur, on ne sait pas trop quoi dire. Le Seigneur connaît toutes choses, on va visiter la personne et c'est la personne qui nous fait du bien. C'est vrai ? Combien de fois on a vécu ça ? On est sorti de la visite, waouh ! Et pourtant, ce n'est pas nous qui avions besoin de visite, c'était la personne, mais la personne nous a bénis, nous a encouragés. Vous savez, avec nos paroles, on peut décourager, on peut détruire. La Bible nous dit même qu'on peut tuer avec nos paroles, avec nos mots. Mais il y a aussi l'autre côté où nous pouvons encourager. Nos paroles sont importantes. Très importante. Avec nos paroles, nous pouvons attrister le Saint-Esprit, mais avec nos paroles, nous pouvons communiquer une grâce aussi, en étant inspirés de l'Esprit. Imaginez si Paul avait dit, c'est terminé, fallait m'écouter, voilà, maintenant, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, c'est terminé. L'histoire aurait été terrible. Ça aurait été l'histoire simplement d'un naufrage, la fin de vie d'un apôtre. Mais Paul était rempli de l'Esprit. Vous savez ce que Dieu cherche dans nos églises ? Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, remplis de l'Esprit, remplis de foi et qui communiquent la paix autour d'eux. Voilà ce que Dieu cherche. Dieu cherche des hommes, des femmes solides pour témoigner au sein même de leur famille, au sein même de leur travail, partout où le Seigneur nous a placés. C'est ce que Dieu cherche. Que nous soyons des lumières. Que nous puissions apporter la lumière dans ce monde de ténèbres. Et quand on communique la parole de Dieu, quand on reflète Christ, on communique la vie. On communique l'espoir là où il n'y en a pas. Et merci Seigneur, parce que l'apôtre Paul, c'était peut-être le seul chrétien sur le bateau, ils étaient à peu près 300. Mais malgré le fait que ce soit le seul, il a rayonné partout sur le bateau. Il a montré qu'il y avait quelque chose de plus. Il a montré que avec Dieu, il y avait de l'espoir. Et voilà ce que Dieu nous appelle à être. Des personnes remplies d'espoir, des personnes remplies de joie, de paix, là où le Seigneur nous a placés, même si c'est difficile, même si c'est l'obscurité autour de nous, même si on entend tellement de choses autour de nous, mais nous faisons notre part. Soyons cette lumière dans ce monde de ténèbres. La première fois que Paul est intervenu ici pour avertir les hommes, personne ne l'a écouté. Je ne sais pas vous, lorsque vous parlez de Jésus, mais parfois on a l'impression que personne ne nous écoute. Ouais, tu nous parles encore de Jésus, qu'est-ce que tu veux ? Mais si Paul il a vécu ça, chacun d'entre nous, bien sûr, nous le vivons aussi. Ce n'est pas populaire de parler de Jésus. Ce n'est pas populaire de faire le bien dans ce monde. Malgré tout, Paul ne s'est pas arrêté. Et lorsque je préparais ce message, j'ai pensé aussi à Noé. Vous connaissez tous Noé, l'histoire de Noé. Noé qui vivait malgré lui dans une génération perverse, corrompue, comme nous aujourd'hui. Et la Bible nous dit dans 2 Pierre 2 que Noé parlait de la justice de Dieu, malgré tout. Il encourageait ses contemporains à vivre une vie juste, parce que sinon le déluge allait tous les emporter. Je crois à chaque jour, il était en train de témoigner par ce qu'il faisait, peut-être aussi par ses paroles. Et nous aussi, malgré le fait que nous soyons dans une génération corrompue, où le mal est de plus en plus présent, nous devons être ces témoins de Jésus. Parce que la porte aussi va bientôt se refermer, parce que Jésus va bientôt revenir. Et finalement, c'est vrai, l'histoire nous montre que Paul n'a pas été trop écouté finalement. Mais Noé, lui, il a continué à prêcher. Il a continué à parler de la justice de Dieu jusqu'à ce que la porte se referme. Et malgré tout, on peut dire, bref, pas beaucoup de résultats finalement, mais il a quand même sauvé tous les membres de sa famille. Cette histoire de Paul nous montre que même dans la tempête, on peut être utile entre les mains de Dieu. Là où le Seigneur nous a placés, apportons l'espoir, apportons la lumière dans ce monde de ténèbres. Et vous savez, dans notre église, je suis impressionné par les frères et les sœurs qui passent par une terrible maladie, qui passent par le cancer notamment. Mais je les vois persévérer. Je les vois venir à l'église, même s'ils sont en chimio, même s'ils n'ont plus de cheveux, ils viennent, ils témoignent par leur présence. C'est là aussi qu'on fait la différence, mes frères et sœurs. Parce qu'on peut parler, il faut parler de Jésus, mais les gens peut-être nous écoutent un petit peu. Mais lorsqu'on est au plus bas, lorsqu'on est peut-être parfois dans les mêmes épreuves qu'eux, mais qu'on montre un autre visage, quel témoignage nous marquons à ce moment-là. Vous imaginez même pas. Même si les gens ne vous le disent pas, quand ils rentrent chez eux, ils se disent, mais tiens, c'est ouais, quelque chose en plus. Hein. Merci Seigneur. J'avance un petit peu, versets 33 à 37, j'ai presque fini. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu, devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Vous avez remarqué ? Il est marqué. Il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous. Ah, parfois, quand j'étais plus jeune, j'assumais pas toujours le fait d'être chrétien. Je rendais pas toujours grâce avec mes amis alors qu'on n'était pas beaucoup. Ici, Paul, devant 275 personnes, il bénit le Seigneur. Il rend grâce. Oui, le chrétien fidèle est celui qui vit sa foi concrètement, dans son quotidien. On peut témoigner de Jésus, mais ce qui parle le plus, c'est comment les gens nous voient vivre. Comment est-ce que nous réagissons face à une situation injuste? Comment est-ce que nous respectons les autorités? Aïe. Comment est-ce que nous nous appliquons dans notre travail? Comment est-ce que nous allons réagir, par exemple, si on nous donne un peu trop à la caisse? Alors, vous savez, ça arrive parfois. Faites cette expérience, enfin, je vous le souhaite. Vous recevez trop, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bah, merci Seigneur, hein. Voilà. Les temps sont difficiles. Ou alors vous dites, non madame, vous vous êtes trompée, je vous rends la différence. Et là, pff, ça n'existe pas ça dans le monde. La vie et le comportement du chrétien témoignent de Jésus. Je vous ai cité juste des exemples, mais il y a une différence qui est faite. Qui doit être faite entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Paul n'a pas eu honte de rendre grâce, de manger, avant de manger devant presque 300 personnes. Il n'a pas eu honte de remercier Dieu avant de manger. Paul a montré l'exemple. Et quand on montre l'exemple, quand on est crédible, on est davantage écouté. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer à la fin de ce passage. Vous savez, lorsque le bateau va finir par s'immobiliser, il est écrit au verset 42 que les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers. C'était clair, c'était le cas d'ailleurs, parce que si les prisonniers s'étaient échappés, c'est eux qui allaient mourir en rentrant. Mais là, de peur de les voir s'échapper à la nage, ils avaient l'intention de tuer tous les prisonniers, dont Paul. Mais l'officier qui désirait sauver Paul à ce moment-là a empêché ce terrible projet. Je crois par-dessus tout que c'est Dieu qui a protégé Paul et les autres. Mais je crois aussi personnellement que ce sont les paroles, la foi et les actions de Paul qui ont convaincu le chef romain de lui faire confiance, de le protéger. Le chef, le centenier, il a vu que Paul était différent. Il a vu que Paul était animé d'un autre état d'esprit. Il a vu que, par-dessus tout, peut-être qu'il ne l'a pas saisi, mais il y avait Dieu qui était là. Dieu avait sa main sur Paul. Et rappelons-nous que la première fois, ce même centenier, il n'a même pas écouté Paul. Paul a dû lui dire, mais moi j'ai reçu ça, faites attention. Il n'a même pas écouté, il a écouté le pilote. Mais ici, on voit que le centenier a préféré écouter Paul. Il a appris, il a progressé. Quand on prend un peu de recul sur cette histoire, on réalise qu'à plusieurs reprises, Paul aurait dû mourir, plusieurs fois. Mais ce passage nous montre que Dieu l'a gardé, parce que Dieu était avec lui. Et si Dieu est avec nous, c'est parce que nous sommes avec Dieu. Et si Dieu est avec nous, la Bible nous dit, qui sera contre nous ? C'est même pas les éléments surnaturels, c'est même pas les hommes, même s'ils ont, projeté des choses, même s'ils ont prévu de nous faire du mal, si Dieu est avec nous, Dieu va nous garder. Dieu va nous protéger. Dieu va nous mettre au large. Verset 43-44, mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Je vous pose la question, vous avez déjà la réponse, mais combien de personnes étaient présentes sur ce bateau ce jour-là ? 276. Combien de personnes sont arrivées saines et sauves sur le rivage ? 276. Mes amis, ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours. Toujours. Et rappelons-nous de ce verset 22 qu'on a lu ensemble. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Et tous les passagers qui étaient présents sur le bateau furent témoins de la vérité de cette parole prononcée par Paul. Je termine. On comprend mieux maintenant pourquoi l'histoire de ce naufrage, c'est bien plus qu'un simple récit. Cette histoire de la Bible nous enseigne et nous montre que dans la tempête, finalement, dans chaque jour de notre vie, Dieu est toujours au contrôle. Toujours. Et ne cherchons pas non plus à voir des signes où il n'y en a pas, ne nous fions pas à ce que nos yeux peuvent voir, à nos ressentis. Cherchons le conseil auprès de Dieu. À l'image de l'apôtre Paul, encourageons les autres en nous appuyant sur la parole de Dieu. Toujours. Vous savez, la parole, c'est vraiment la vérité. La parole de Dieu, c'est une puissance. Il y a quelque chose que Dieu communique au travers de sa parole, qui est surnaturel. Imprégnons-nous de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Nourrissons-nous de la parole de Dieu tous les jours. Méditons-la et mettons-la en pratique. Et vous allez voir que lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, le Seigneur, il nous accompagne. Le Seigneur, il accompagne toujours sa parole par des actes, par des prodiges, par des miracles, toujours. Des miracles peut-être qu'on ne voit pas tout de suite, mais des choses qui se passent à l'intérieur des cœurs parce qu'on a semé la parole de Dieu. Et soyons des modèles aussi, bien sûr, pour ceux qui nous entourent. Finalement, dernière question. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Paul traverse une fois de plus cette épreuve, ce naufrage ? Parce que Dieu connaît la fin de toutes choses. Nous, on vit l'instant T. Dieu, il sait déjà ce qui va se passer à la fin. Aucune épreuve n'est gaspillée avec le Seigneur. Les épreuves que vous pouvez traverser, que vous pouvez connaître dans votre vie, elles ne sont pas gaspillées. Dieu se sert de chaque saison de notre vie pour nous faire grandir. Et merci Seigneur pour les épreuves aussi, parce que si peut-être je n'avais pas vécu telle ou telle épreuve, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas appris de Dieu. Et je ne pourrais peut-être pas vivre, partager avec les autres parce que je n'aurais pas vécu cette épreuve. Mais merci Seigneur. Sur le moment, c'est sûr, on ne se réjouit pas. Enfin, pas toujours. Mais à la fin, on se dit finalement merci Seigneur. Un jour, un homme fait naufrage sur une petite île. Il se fabrique une petite cabane. Il met toutes ses affaires dans cette cabane. Et tous les jours, il prie Dieu d'être secouru. Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Sa cabane, elle est tellement précieuse parce qu'elle le protège du soleil le jour, il fait tellement chaud, et la nuit du froid parce qu'il fait froid. Et puis un jour, sa cabane, elle prend feu. Alors cet homme, se met en colère, il en veut terriblement à Dieu. Non seulement j'ai fait naufrage, mais en plus je suis coincé là depuis des semaines et la seule chose que j'avais vient de prendre feu. Alors cet homme se couche le soir, amer, en colère contre Dieu. Le matin, il se réveille, il entend du bruit. Il se lève et il voit un bateau là sur le large. Et il voit un équipage arriver. « Comment avez-vous su que j'étais là ?» lui dit cet homme. Et l'équipage lui répondit « Nous avons vu votre signal de fumée. » L'homme a compris que ce qu'il considérait comme détruit était finalement la préparation d'une bénédiction. Nous devons comprendre que la tempête présente, l'épreuve que nous pouvons traverser, nous prépare toujours pour la bénédiction future. Dieu est souverain sur sa création, sur notre propre vie. Dans nos tempêtes, dans nos épreuves, dans nos difficultés, ne perdons jamais notre communion avec Dieu. Jamais. Mais faisons-lui confiance, il est celui qui va conduire toutes choses. Pour sa gloire, pour notre bien. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Elle nous fait tellement de bien, ta parole, Seigneur, parce qu'elle nous corrige, elle nous instruit, elle nous montre le chemin à suivre. Je te prie pour, Seigneur, pour cette église d'Istres, pour chaque frère, chaque sœur, pour moi-même, Seigneur, afin que nous puissions avoir la bonne réaction, Seigneur, lorsque nous passons par des temps difficiles. Seigneur, merci pour ce passage que tu as inscrit dans ta parole. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, la mettre en pratique et nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous confier toujours en toi. Merci parce que tu es celui, Seigneur, qui tient notre vie entre tes mains, Seigneur. Tu tiens ce monde entre tes mains, Seigneur mon Dieu, et nous pouvons, Seigneur, que te faire confiance. Merci, Seigneur, parce que tu permets toutes choses pour notre bien, Seigneur. Et Seigneur, peut-être le jour où nous serons devant toi, nous pourrons te dire, mais merci Seigneur pour les choses que nous avons vécues, parce que Seigneur mon Dieu, tu as toujours été avec nous. Tu nous soutiens Seigneur. Béni soit ton nom, béni mes frères et sœurs, béni mes amis Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Merci pour tout Seigneur, à toi la gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.